Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Quel est le processus de la repentance? Prenons nos Bibles dans Luc chapitre 15. Et nous inspirons de la parabole du fils prodigue qui nous instruit clairement sur ce qu'est la repentance ou sur comment se déroule. Quel est le processus de la repentance? Elle commence par une prise de conscience. Luc chapitre 15. À partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs, faire paître les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé un de tes fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ou de tes employés. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. Mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Et mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et commençait à se réjouir. Amen. Gloire à Dieu. Cet exemple ou cette parabole nous montre de manière pratique comment se passe la repentance. Quel est le processus de la repentance? Et je veux que vous suivez attentivement parce que vous allez voir que quand je vais commencer à aborder les détails, vous allez voir que dans le processus de la repentance, il se produit vraiment une délivrance, mais une réelle délivrance. La repentance commence d'abord par la prise de conscience. Au verset 17. Il a dit qu'il est entré en lui-même, rentré en lui-même. Donc la repentance est un processus qui commence d'abord à rentrer en soi-même. C'est une prise de conscience. Pourquoi il est entré en lui-même? Quand nous voyons les confessions, ce qu'il déclare, on se rend compte que le fils était dans une situation de regret. De la repentance, il y a le regret. Il y a un regret sincère des actes qu'on a posés contre Dieu. Et ici, il rentre en lui-même. Je suis sur l'idée de rentrer en soi-même d'abord. Prendre conscience de ce qu'on a fait qui est mauvais. Pourquoi il prend conscience de ce qu'il a fait est mauvais? Quand vous lisez à partir du verset 11, vous vous rendez simplement compte que, comme c'est un enseignement, j'irai doucement. Vous vous rendez compte que le fils a exigé de son père le partage de l'héritage. Maintenant, quand on lit la Bible et quand on lit les lois de manière générale, on se rend compte que l'héritage ne se partage jamais du vivant du propriétaire. Ou bien je me trompe. Si vous partez chez votre papa ou votre maman, il y en a qui ont des parents qui sont bien assis, nantis, qui ont des grands, dans des maisons, des plantations, qui ont beaucoup de choses. Il dit, papa, Moi, j'ai 25 ans. Toi, tu en as à peu près 45, tu en as à peu près 65. Peut-être dans l'année prochaine, tu vas mourir. Alors, je veux te demander aujourd'hui que tu me donnes, parce que quand tu vas mourir, moi, je suis ton fils, on est deux. En même temps, est mieux. Je veux ma part d'héritage. Tu coinces le père dans la chambre. Tu le menaces de couteau. Aujourd'hui, parce que toi, tu es vieux, tu as 65 ans, tu as 40, tu as 55 ans ou tu as 70 ans. Tu vas mourir. Moi, je veux ma part d'héritage. Je suis peut-être en train d'exagérer un tout petit peu, mais bon, c'est pour donner des idées. Peut-être que ce fils pour dire est passé par là. Parce que logiquement, on ne partage pas l'héritage lorsque le père est vivant. Ou bien je me trompe. Si vous partez, papa, papa me dit, papa, on partage l'héritage, il va dire, ah bon, tu veux me tuer? Eh, je te prends aujourd'hui qu'il y a des pères qui enterrent leur fils. Donc moi, je t'enterre. Donc, déjà, ce fils prodigue avait manqué de respect à son père. Donc, quand il entrait en lui-même, il a commencé à se rendre compte qu'il avait commis beaucoup de dégâts. Il rentre en lui-même. Il prend conscience de ce qu'il a fait. Deuxièmement, il force son père. Et son père, effectivement, par amour, par compassion, lui donne l'héritage. Donc, lui remet, lui transfère ce qui lui est revenu. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il prend cet héritage et il en fait ce qu'il veut. Vous voyez que dans la repentance, on prend conscience qu'on a commis des actes graves. On mesure, ou on prend la mesure de toutes choses. On s'assoit, on dit, mais est-ce que vraiment j'aurais dû faire ceci? Obliger mon père à me donner ma part d'héritage. Prends cet héritage qu'il a acquis en travaillant dur. Peut-être qu'il a travaillé dur. J'ai rencontré la semaine dernière un jeune frère qui était avec moi au lycée garçon, mais je vis, c'est en Côte d'Ivoire. Et je lui dis, entre toi et le père, qui est le vrai? Parce que les deux portent les mêmes noms. Moi, je m'appelle Gadji. C'est comme si je disais, entre Gadji, le vieux, le gars qui est décédé maintenant, qui est le plus grand. Et le fils m'a répondu, c'est son père. Il dit, pourquoi? Mais parce que lui, il dit, mais ton père avait les grands moyens financiers, tout ça, il est connu. Quand je dis son nom, vous allez le savoir pour les Ivoiriens, en tout cas, il est connu et il a des grands moyens, il s'est battu seul. Il est président d'un conseil quelque part en Côte d'Ivoire ici. Et je lui ai demandé, mais tu t'es battu seul pour être là où tu es? Pourquoi est-ce que ton père n'a pas aidé? Il a dit, m'a dit ceci. Mon père m'a pas aidé parce que mon père lui-même s'est battu tout seul. Il n'a pas reçu d'héritage de quelqu'un dont lui veut que ses fils se battent tout seul. Alors, vous voyez que son fils va s'élever. Et puis, il va dire à son père qui lui s'est battu tout seul, qui a bâti, je veux dire, ce qu'il a aujourd'hui, qui a pu se faire un nom. Son fils va aller voir pour dire, moi, j'exige que tu me donnes la moitié. Tu es fou, c'est toi qui m'as donné cet argent-là. Tu penses que ton grand-père qui m'a donné ça? C'est moi-même qui a eu mon argent. Donc, vous comprenez que dans l'attitude que le fils avait eue, le fils prodigue, il y avait un aspect qu'on peut qualifier d'irrespect, d'irrévérencieux. Tous d'accord avec moi? Je suis en train de montrer l'importance de la repentance qui commence par une prise de conscience de la gravité de l'acte qu'on a posé. Parce que si on ne peut pas conscient de la gravité de l'acte qu'on a posé, on peut penser que ça fait rien, Dieu c'est un Dieu qui est bon, il envoie son fils, ça fait rien, il pardonne nos péchés. Ce fils est entré en lui-même. Il prend la mesure de ce qu'il a fait. Et ensuite, il a dilapidé ses biens avec qui? Mais avec toutes les couleurs possibles. On a les blanches. Entre les blanches, il y a les châtaignes, il y a les blondes, et puis il y a quoi encore? Il y a les brunes. Il y en a des yeux bleus, des yeux verts. Il y en a qui sont plus bronzés, ceux qui sont au sud de l'Europe. Ceux qui sont plus au nord, vers le Danemark, vers la Suède, sont plus clairs, comme du coton, très proche. Il a été là-bas. Il a fait tout ça. Ensuite, il est revenu en Afrique. Chez nous, il y a toutes les couleurs. Il y a en forme, il y a clair. Il y a taille fine, taille moyenne, taille grosse, rouge. Il est allé en Asie, yeux bridés, jolis, petit format, grand format. Il est allé chez les Indiens. Enfin bref, il a essayé partout. Il a dilapidé tous ses biens. Donc il se rend compte qu'il a été non seulement volage, il a été vraiment quelqu'un d'indiscipliné. Donc il prend conscience de ce qu'il a réalisé. Dans la repentance, on prend conscience de l'ampleur des dégâts qu'on a commis. Parce qu'on gaspille de l'énergie. On gaspille des forces. Maintenant, pour être plus pratique, quand nous sommes en Christ et que nous sortons de sa volonté, qu'est-ce qui se passe? C'est comme nous gaspillons, exactement comme le fils prodigue, nous gaspillons les valeurs qu'on a reçues de Dieu. La foi chrétienne, ce n'est pas une religion. Vous voyez, nous enseignons aussi les valeurs. Parce que nous disons que nous sommes la lumière du monde. Contrairement à ce qu'on pense, Ceux qui vivent dans le péché ont envie de nous ressembler parce que c'est là qu'on est différent d'eux. Ils auraient tellement voulu avoir notre paix, notre solidité morale, psychologique, spirituelle, notre stabilité. Il me dit, mais tiens, mais comment tu fais? Il dit, Dieu est avec moi. Il dit, mais vraiment, j'aimerais être avec toi, mais c'est difficile. Je vois que tu es différent. Vous voyez que quand on a ce potentiel, qu'on le dilapide, on le fait exactement comme le fils prodigue, qui a dilapidé ce potentiel, ses valeurs, qui l'a dilapidé complètement. Parce que quand on reçoit Christ dans sa vie, on reçoit du potentiel de Dieu. Il faut dire, amen avec moi. En réalité, nous sommes un investissement de Dieu. Nous sommes la réalisation du projet initial de Dieu. Et quand nous marchons avec lui, sa grâce se trouve en nous. Sa faveur se trouve en nous. La capacité de pardonner, de vivre au-dessus, enfin, sur les ténèbres, de marcher sur les ténèbres, sur les scorpions, se trouve en nous. Mais quand nous péchons, c'est comme si nous dilapidons dans une sorte de débauche toutes ces capacités-là. C'est pourquoi on a besoin de prendre conscience de la mesure de la gravité de nos actes. Ce fils prend conscience de la gravité de ses actes. Et il s'est dit que ça ne peut pas continuer ainsi. La repentance commence par la prise de conscience. Et ça demande qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse. On ne se répand pas en riant, en mangeant du chewing-gum. On se répand en s'asseyant et en réfléchissant. Est-ce que vraiment, j'aurais dû me comporter ainsi? Est-ce que je n'ai pas dilapidé tout l'investissement et toute la confiance que Dieu a en moi? Est-ce que vraiment, c'est comme ça que j'aurais dû me comporter? Seigneur, je me rends compte que je suis passé à côté. Je prends conscience. Et deuxième aspect, dans la prise de conscience, toujours, au verset 17, il est dit, rentré en lui-même, il se dit, deuxième aspect, quand on prend conscience, il faut se parler à soi-même. Il se dit, vous voyez, le fils n'a pas dit, ah, tu sais, mon père, il était gentil, c'est vrai, il avait beaucoup de bien. Mais dans mon quartier, il y avait une petite là, elle était toujours en jupe courte. Et moi, je supporte pas la jupe courte parce que c'est dangereux pour moi. Non! Il n'a pas accusé les autres. Il a dit, il s'est parlé à lui-même. Dans la repentance, on se parle à soi-même. On se dit, oh, tranquille. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ou qu'est-ce que j'ai fait là? On s'assoit, on se parle. On ne cherche plus à se justifier en accusant les autres de tous les péchés d'Israël. En pensant que c'est à cause d'eux que ça ne marche pas. Cela est vrai dans les relations entre monsieur et madame. Quand vous devez régler des affaires de famille, quand vous écoutez madame, vous pensez que le monsieur est le plus méchant et le plus mauvais que le monde ait jamais connu. Mais quand vous écoutez le monsieur aussi, vous dites, ah, ça fait monsieur est mauvaise. Comment elle fait un truc comme ça? Vous voyez qu'on ne peut pas sortir de ce genre de situation idem. C'est pourquoi la repentance commence par la prise de conscience et ensuite par se parler à soi-même. Il se dit, vous voyez que si on double cet aspect où on se parle à soi-même, on va toujours penser que les autres sont à la base de nos péchés. Les autres sont ceux qui nous corrompent. Les autres sont ceux qui nous influencent et que nous, on est blanc comme neige, on n'a aucune part de responsabilité. C'est la même chose qu'on fait à l'égard des démons. Quand on se met à les chasser, bien entendu, on dit ce sont les démons qui ont fait que je suis tombé dans le péché. Entre nous, comme on dit, ah oui, il t'a attrapé et puis il t'a conduit, mais c'est toi, comment tu as fait ça? Oui. Il ne saurait y avoir, je dis, accord, si vous-même, enfin, si il ne saurait y avoir acte, il n'y a pas d'accord. Et c'est pourquoi ce passage est important. Et c'est pourquoi quand je prêche, vous voyez que des fois, j'insiste sur les mots. Je me suis sur les phrases. Parce que comme disait la Bible, lisez tout. Il est dit, il s'est dit à lui-même. Ça veut dire qu'il a exclu ceux qui étaient extérieurs. Il a exclu les autres. Il a même exclu les autres. Il n'a pas dit, c'est le diable qui m'a trompé. Ce sont les démons qui m'ont poussé à faire ceci. Il a dit, non, je me parle à moi-même. Et il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Dans cette idée, il y a une comparaison qu'il fait. Il fait un travail d'analyse. Un, il y a la prise de conscience. Deuxièmement, il y a le fait qu'on se parle. Troisièmement, il y a une analyse qu'il faut faire. Un examen qu'on fait. Dans l'analyse, ou dans un travail d'analyse, on arrive à une sorte de comparaison. Il dit, moi, je vis dans le dénuement. Mais combien chez mon père, il y a la nourriture en abondance? Il prend conscience, du coup, que son père a de l'abondance. Il prend conscience, si on est dans le cadre chrétien maintenant, il prend conscience des valeurs chrétiennes. Il prend conscience que c'est tellement beau de vivre une vie chrétienne victorieuse. Il prend conscience que quelque chose ne tourne pas rond et que chez le Père Céleste, il y a de l'abondance. Je m'adresse ce matin à ceux qui ont peut-être rétrogradé et qui, parce qu'un pasteur n'a pas été très amical, plein d'amour, vous a poussé à la porte. Chers frères, chers soeurs, si tu entends ce message, que ce soit sur Internet ou sur CD ou par quelque moyen que ce soit, mon frère, ma soeur, prends ce matin conscience que chez ton père, il y a du pain en abondance. Ne reste pas en arrière parce que quelqu'un t'a manqué de respect. Et à cause de lui, tu dis, moi, je coupe une yam avec Dieu. Mon frère, je coupe une yam avec Dieu. On va couper ta roue avec toi. Il s'est dit à lui-même que chez mon père, il y a de l'abondance. Chers frères, chers soeurs, en Christ, il y a l'abondance. En Christ, il y a vraiment le pain en abondance. Au sens propre comme sens figuré. Mais arrivons au sens figuré, surtout au sens spirituel. On ne peut pas imaginer le capital que nous avons en nous. La paix de Dieu est une denrée qui est rare. Pensez à tous les leaders, pensez à toutes les stars de cinéma, de sport, de ceci. Lisez leur vie, vous vous rendez compte que ces personnes-là sont des fois pauvres et noient leurs soucis à travers la drogue et à travers l'alcool. Je suis choqué d'entendre que la plupart des stars du cinéma sont tous des gens impliqués dans la drogue et dans l'alcool. Pour avoir une nuit tranquille, ils sont remplis de barbituriques et d'antidépresseurs. Le Canada ou la France, ce sont les pays qui consomment, qui ont le taux de consommation de tranquillisants le plus élevé au monde. Et la plupart des pays développés sont des pays qui sont les pays développés, pas les pays, mais les habitants. Parce que des fois, on veut tout ramener à l'argent. On veut tout ramener à l'argent. C'est parce que je n'ai pas l'argent que je suis pas heureux. C'est parce que j'ai une belle voiture. Mais imagine les hommes qui ont de l'argent. Qui ont beaucoup d'argent. Qui peuvent nous payer ici, par mois. Il dit, mon frère, tu commences, bon, tu donnes 500 millions, enfin, passez les millions quand même, tu donnes ceci par mois. Ils peuvent le faire, sans tranquillement. Demandez-leur comment ils vivent, comment ils dorment. Ils se droguent. Comment ils se peintent. Juste pour avoir un petit sommeil. Et toi, en Christ, tu dors de 21 à 6h du matin. C'est pas une grâce, ça. C'est pas une grâce, ça. Des gens auraient voulu payer ça. Oh, vous ne croyez pas que c'est vrai ce que j'ai dit? Des gens auraient voulu payer, mais comment tu fais pour dormir? Des gens auraient voulu payer ça. Trouver le sommeil. Ou la paix du cœur quand il y a les troubles, les turbulences de la vie. Comment tu fais pour résister? Explique-moi comment c'est fait que parmi ceux qui se tuent le plus sont les gens qui veulent les pays développés, pays riches. Pourquoi le taux de suicide est si élevé? Si c'était l'argent qu'il y avait, qui nous donnait le bonheur forcément. Je veux dire, avoir les valeurs en Christ, ces valeurs spirituelles, sont au-dessus de ce qui est matériel financier. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, quand tu es en Christ et que tu dilapides ta vie à travers le trésor dont on a parlé tout à l'heure, c'est comme le fils prodigue prend conscience que son père a chez lui du pain en abondance. En Christ, il y a le pain en abondance. La paix fait partie du pain en abondance. La joie, la vraie joie, pas le ministère de la joie, le Pougon, rue Princesse en Côte d'Ivoire, non, mais la vraie joie fait partie du pain en abondance. La capacité à pardonner, à oublier, faire partie du pain en abondance. C'est vrai que les rancunes tuent. Les rancunes développent l'ulcère d'estomac. Est-ce que je me trompe? Ceux qui sont médecins, ou ils ne parlent au contraire. Ne pas avoir la tranquillité, crée en vous le stress. Donc, avoir la paix du cœur est un bien tellement important que ce fils prend conscience que, en vivant dans la débauche, il n'avait plus la paix du cœur. Vous comprenez que, Dans cet élément-là, il prend conscience de tous ces aspects-là. Et il se parle. Il prend conscience. C'est un examen qu'il fait. Un examen attentif et sérieux. Lorsque les choses ne tournent pas rond, ou lorsque on sent qu'on a dans nos vies des oppressions, arrêtez d'abord d'accuser le diable et ses démons. Arrêtez d'abord d'accuser les circonstances dans lesquelles vous êtes. Asseyez-vous vous-même. Et puis commencez à vous parler. Est-ce que vraiment j'ai une part de stabilité? Faites une comparaison. Et quand vous faites la comparaison et que vous examinez vous-même, vous allez vous rendre compte que vous-même, vous avez offert des portes à l'ennemi. Et c'est sur ça que je vais arriver. Puisque je suis sur cet aspect-là, en même temps en parlant de délivrance. Vous voyez que si son fils n'était pas entré en lui-même, il n'allait pas pouvoir être délivré. Parce qu'il était attaché jusqu'au cou. On parle des démons de mari de nuit, de femme de nuit. Mais qui les a provoqués? C'est lui-même qui l'a provoqué. Vous voyez que dans la délivrance, parce que je fais une parenthèse pour cela et pour montrer le lien, tant qu'il n'y a pas pris de conscience de son état spirituel,
Tant qu'on ne se parle pas à soi-même, comme le verset 17 nous dit, il se dit à lui-même. Tant qu'on ne réalise pas tout ce qu'on paie comme bénéfice, alors il va être difficile de connaître une vraie délivrance. Mais quand on se parle à soi-même, parce que vous savez que dans le monde spirituel, on le verra tout à l'heure, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le fils a dit à son père, quand il est parti vers son père, il a dit, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je vous explique pourquoi il a dit contre le ciel et contre toi d'abord. Et pourquoi il n'a pas dit, j'ai péché contre toi? Quand il a pris l'argent de son papa, est-ce qu'il a pris l'argent du ciel? Mais pourquoi il dit contre le ciel? Je vais expliquer ça tout à l'heure. Vous allez comprendre que c'est important, qu'il n'y a aucun acte ne se fait de manière anodine. Regardez. Lorsque nous livrons notre corps au péché, je vous explique maintenant, l'ennemi acquiert un droit. Dimanche dernier, je l'ai expliqué ici. Ce qu'on appelle un droit acquis. Qu'est-ce qu'on appelle un droit acquis? C'est une décision qui est prise à l'égard de quelqu'un et qui dépasse le délai. C'est un acte réglementaire, un acte individuel généralement. Puis pour quelqu'un, je peux dire, bon, le fait, Tiaba ou Sibahi ou le frère Roger, Nguessan Guédé ou Emmanuel ou Roger, dans l'administration, on prend un acte pour dire, bon, il est nommé à tel poste. Il peut ne pas avoir les compétences. Quand il est nommé, l'administration a 2 mois pour rapporter ce taxe. Il a 2 mois pour rapporter cet acte. Après 2 mois, la personne acquiert ce qu'on appelle les droits acquis. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rapporter l'acte, c'est-à-dire que l'annuler sans violer ce qu'on appelle les droits acquis. Et si vous le faites, vous devez forcément payer des dommages et intérêts. Vous me suivez? C'est pas du droit, mais je vais expliquer que ce droit naturel au niveau humain se passe ainsi au ciel. Donc, quand nous laissons aller dans le péché, l'ennemi acquiert sur nous des droits acquis. Comment le chasser sans payer des dommages et intérêts? Il faut d'abord que vous renonciez au péché ou aux actes ou au caractère, au comportement par lequel il a eu accès à votre vie. Est-ce que je peux entendre Amen? Vous suivez? Vous suivez? Ça fait même temps une assurance sur la délivrance. Hein. Tant que vous ne renoncez pas au comportement, au caractère, à l'acte par lequel l'ennemi a eu un accès à votre vie, il a su vous un droit acquis. C'est comme dans l'administration. Passer 2 mois, en tout cas en droit ivoirien, passer en droit administratif ivoirien, passer 2 mois, la personne a ce qu'on appelle les droits acquis. Si vous la renvoyez de son poste pendant ce temps-là, vous allez payer. S'il porte plainte contre vous, va gagner le procès. Et puis il va avoir bénéfice ce qu'on appelle les dommages et intérêts. De la même manière, lorsque nous le sommes allés, c'est pourquoi la repentance est importante. Lorsqu'on n'a pas renoncé au péché, on n'a pas renoncé au comportement, l'ennemi, les démons ont un droit acquis sur nous. On va prier, on va chanter, ils ne bougeront pas. Ils vont chanter comme Christian Keita, nous pas bouger. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des gens qui, nous pas bouger. Des Africains là-bas, pas bouger. Ils sont dans l'égalité, mais ils disent, ils bougent pas. Vous m'excusez si vous suivez ça, mais vraiment, je vous parle en même temps. Soyez en règle et faites-vous papier normalement. C'est bon d'être en règle avec la société. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez que... Alors, pour sortir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer. Donc, dans la repentance, renoncer et déchirer l'acte qui est le droit acquis. Quand l'acte est déchiré, ce qui était le droit acquis, l'ennemi étant déchiré, son pouvoir sur vos vies est brisé. Il faut dire Amen. La délivrance se passe comme ça. Des fois, on veut mystifier la délivrance. En pensant qu'il faut crier, oh, yabaraba, yacha. Les démons iront à cause de mon autorité, mais ils sont là. Ils vont guetter. Moi, lui, là, reste là à côté. On te connaît, c'est pas là-bas, tu vas habituellement. Attends. Et puis, ils reviennent en force. Je le dis en riant, mais pour montrer un peu le processus spirituel. Donc, ici, dans ce cas précis, quand il est entré à lui-même, qui s'est parlé, il a pris conscience. Et, dans la seconde étape, je rappelle, parce que c'est un enseignement, je rappelle, dans le processus de la repentance, ça commence par la prise de conscience. Une prise de conscience qui nous permet de nous parler à nous-mêmes. Donc, c'est le fait de se parler à soi-même est un sous-parti, un sous-élément de la prise de conscience. Je prends conscience. Je mesure l'ampleur des actes que j'ai commis, les dégâts de ce que j'ai fait, et ensuite, je me parle à moi-même. Je ne cherche pas à me justifier, je me parle à moi-même. Il dit, je prends conscience que ce qu'il fait n'est pas bon. Et ensuite, j'arrive à faire un examen, une sorte d'analyse comparative entre ce que je suis maintenant et ce que j'ai perdu. Parce qu'on ne peut pas vous repentir si on ne peut pas se repentir, si on ne mesure pas ce qu'on perd. Pourquoi vous voulez que je me repente si je me rends compte que ce que j'ai maintenant est bon? Vous voyez que si je commence à mesurer la valeur de la vie en Christ, la paix, la joie, la tranquillité, on est protégé contre les maladies bizarres, on a la paix du cœur, on ne tombe pas dans les cafouillages, on a une vie plus ou moins bien, on est stable, on est heureux, les gens nous regardent, nous envient. Si on pense que ça a de la valeur, donc c'est un potentiel, la Bible appelle ça du pain en abondance. Dis à ton voisin, aide du pain en abondance. Parce qu'on pense que le pain en abondance, c'est l'argent, les grosses voitures. Non! La paix du cœur constitue du pain en abondance. La tranquillité, la stabilité, je l'ai dit encore, je me répète encore. Le fait d'avoir 8 heures de sommeil, de ne pas avoir des semaines troublées où nous poussons avec des moutons et des bœufs, où on dort tranquillement. Même si il y a des souris qui se tordent, font du bruit. Tu dis ça là, ce ne sont pas les démons, ce sont les souris. Il y a des gens, quand la nuit, il y a quelques oiseaux qui marchent sur le toit. Oh Seigneur, le sorcier du village qui marche sur moi. Attends, c'est un oiseau qui est dans le quartier. Il va lier, il va délier, il va renverser. Vous voyez que lorsque votre vie est en règle avec Dieu et que vous avez une vie qui est normale, nouvelle, votre vie est stable. Dis ton voisin, ta vie est stable. Tu n'es pas effrayé par les bruits de Magouya ou les bruits des salamandres ou les bruits des chauves-souris. Tu le prends et puis tu le manges. Parce que tu es toi qui as reçu en Christ l'autorité. Pourquoi on va aller se mettre troublé et de la confusion? Quand le temps du commerce peut-être arrive, tu le sais. Dieu te prévient. Et puis on ne dort pas aussi comme un sous-là. Tu le lis, matin, tu as bu. Oh, Jésus, merci. À demain matin. Non. Quand même, faut lui rendre grâce. Lui confier sa journée et lui faire confiance. Est-ce que ce qu'il dit a un sens? Est-ce que ça vous aide? Maintenant, donc, dans cette première partie, où je parle de prise de conscience, où j'ai dit que la prise de conscience, il y a le fait qu'on se parle à soi-même. Et le fait qu'on examine, on fait la comparaison. Parce que tant qu'on ne prend pas conscience que la vie chrétienne a de la valeur, vous voyez qu'on peut essayer de mélanger, mais parce que on se dit, oh, de façon, c'est pas important, on peut faire le show. Mais si on prend conscience que la vie chrétienne a de la valeur, ça a des grandes valeurs. Est-ce qu'on est prêt à dilapider les valeurs? On est prêt à dilapider qu'on appelle le pain en abondance et le donner au pourceau? Le Seigneur a dit, ne donnez pas vos pelles à qui? Ne donnez pas vos pelles à qui? Au pourceau. Les pelles, c'était quoi? Les pelles, c'était quoi? C'était la vie abondante en Christ. C'est la vie abondante en Christ. C'est pourquoi on ne donne pas, on dit, on donne pas les pelles au pourceau. On ne jette pas les chiens, on ne donne pas ça aux chiens. Enfin, c'est pas vous les chiens, je dis, mais c'est spirituellement parlant, pour dire que quand vous venez en Christ, vous avez la meilleure vie possible. Vous dites, amen avec moi. Croyez ça et acclamez Dieu pour cela. Vous avez le meilleur. Vous avez vraiment le meilleur. C'est le pain en abondance. Mais imaginez ces personnes qui sont troublées, qui sont dans la confusion, qui paient des psychologues à longueur de journée, qui paient même des devins pour qu'ils prédisent pour l'avenir. Ça existe, oui ou non? Imaginez des belles femmes, des belles voitures, aller dans les faux coins, à Dufour là-bas. En Côte d'Ivoire, bien là-bas. Je suppose qu'une femme qui sent un parfum qui coûte au moins, je ne sais pas combien d'euros, au moins 100 euros, 65 000 francs à peu près. Aïe, chien, gars. Je m'excuse vraiment. C'est Dieu qui l'a créé aussi, mais vraiment, dans le naturel, quand tu regardes le monsieur, tu dis vraiment, cette femme-là, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Et puis, elles font ça quand même. Quand il y a l'élection, tout ça, c'est qu'on fait comme qu'on y rit. Si le féticheur pouvait avoir le pouvoir d'être président, pourquoi il n'est pas devenu président? Et puis on croit à ces bêtises, on croit que lui, le féticheur peut t'aider à devenir ministre, à devenir président. Tu vois, c'est quelqu'un qui lui-même n'a même pas été à l'école. Il lit le journal à l'envers.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.